Écosystème, Florence Farion.
Connaissez-vous le Petit Prince ? Forcément. Qu'avait-il de si exceptionnel ? Une curiosité, une capacité à apprendre, à s'émerveiller, accueillir, improviser, apprivoiser. Autant de talents que notre invité nous propose de planter dans notre jardin. Ce Petit Prince peut être aussi une princesse, on ne va pas s'embarrasser avec la couleur, du rose, du bleu, de toute façon la radio c'est pas en couleur. Et notre invité a un parcours atypique. Il a porté les couleurs d'un maillot de gardien de but. Depuis, il s'est reconverti dans le but de garder... Gardez quoi ? Quelque chose qui ressemble au bonheur de se sentir vivant. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Il vous encourage, il nous encourage à la vivre ainsi. Il observe, ausculte les bipèdes, leur tient la main, à sa manière. Comment, pourquoi et surtout, que pouvons-nous en faire ? Jusqu'à 14h, cet Écosystème sur la première. Soyez les bienvenus. Conférencier, coach, il nous encourage, au travers de nombreux écrits inspirés de son parcours, de devenir athlète de notre vie. Dans ce mot, nous entendons les efforts de l'entraînement, forcément. Athlète, c'est aussi vouloir aller plus fort, plus vite que les autres. Point d'interrogation, est-ce que c'est vraiment ça ? On va lui poser la question. Je vous espère prêt à chausser vos meilleures pompes pour commencer le premier pas vers cette course. On connaît tous l'arrivée, elle est la même pour tous, inéluctable. La seule chose qui compte n'est-elle pas justement la course, comment nous la vivons et comment nous l'apprécions chaque jour. Bonjour Thierry Schneider.
Bonjour.
Précisons que, où que nous soyons dans cette course, qu'on soit essoufflé ou pas, on va tenter de la poursuivre pendant une heure en tout cas en la mettant dans vos chaussures. J'espère qu'elles sont assez grandes pour tout le monde.
Mais c'est magnifique.
Nous sommes déjà partis.
Vous nous avez embarqués.
Votre dernier livre est la suite, est une suite, je dirais, de petites fables qui sont faites d'expériences personnelles, de citations, de phrases clés que l'on peut mûrir ou qu'on peut, je me disais, garder dans sa poche comme autant de petits cailloux qui peuvent jalonner justement cette course. Le titre, c'est « Oui, rien n'arrive par hasard ». Il est paru aux éditions Un Monde Différent, c'est un éditeur canadien, c'est ça ?
C'est ça.
Accepter que rien n'arrive par hasard, c'est facile pour les événements positifs, évidemment, facile de les accepter. J'ai rencontré l'homme de ma vie dans un train, j'aurais dû prendre celui que j'ai raté, enfin tout ça, puis tout d'un coup je me retrouve face à lui. Pour ces jolies histoires, c'est facile de s'arranger avec ce hasard.
Oui, eh bien vous parliez de la conférence du spectacle, l'introduction du spectacle. Ma femme me quitte, elle prend la porte. C'est aussi un hasard. Alors je vous avoue, j'ai mis du temps pour enlever l'emballage et pour apprécier le cadeau. Mais oui, le hasard, il va être tout le long de notre chemin. Et ce qui est important, comme vous l'avez précisé, c'est pas le but. Le but, c'est qu'une destination. On va passer beaucoup plus de temps à cheminer. Donc, c'est le plaisir que l'on va prendre sur ce chemin. Et personnellement, je suis persuadé que plus on se sent bien, plus on est passionné, plus on accepte simplement de s'émerveiller de petites choses, plus on va performer, un mot qui est très important pour les sportifs et les athlètes. Mais pour moi, la vraie performance, vous l'avez exprimé tout à l'heure avec le Petit Prince, c'est apprivoiser. Et la première personne à apprivoiser, c'est soi-même. Vu que c'est nous qui allons avoir une lecture de notre monde, agréable ou désagréable, nous avons le choix. Mmh. Quelle que soit la circonstance, rencontrer la femme de sa vie dans le train ou qu'elle prenne la porte à un autre moment de notre vie. Donc ce regard, c'est là qu'on détient notre vrai pouvoir. On ne réagit jamais à une situation, mais à l'image qu'on se crée d'une situation. J'insiste sur le verbe « créer », il va être très important pour moi, parce que créer, c'est vivre, c'est vivant. On ne duplique pas quelque chose, on crée une image. Et c'est vrai que si j'ai une image cabossée de moi-même, je vais avoir une lecture de la vie qui va être cabossée. Donc, comment travailler sur moi-même pour être déjà beaucoup plus gentil ? Et le Petit Prince nous montre le chemin. C'est l'innocence, c'est la candeur, c'est l'émerveillement. Dans une journée, il y a 24 heures, ça, ce sont les adultes qui vont le dire. L'enfant va dire il y a 86 400 secondes. Donc il y a 86 400 opportunités de s'émouvoir, de s'émerveiller. Comme l'a dit ce matin ma petite fille, « Papa, mais je t'aime et j'aimerais juste te réciter une petite poésie. » Et la poésie est très simple, c'est un enfant... Ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant. Voilà le voyage dans lequel vous m'amenez et que j'aimerais vous amener aussi.
C'est plus facile d'accepter quand même les jolis hasards que les hasards qui vous froissent, qui vous blessent et qui... on est bien d'accord. Hein.
Totalement. Moi, j'ai été élevé à la campagne. Il y a beaucoup de bouses de vaches à la campagne. Mais c'est dans les bouses de vaches que poussent les plus belles fleurs. Et on parlait de Mike Horn tout à l'heure ensemble. Il m'a aussi appris une belle leçon de sagesse pour s'entraîner à être bien centré dans la banquise. Il habitait à l'époque Châteaudet, il n'y avait pas de banquise. Eh bien, c'était justement d'éviter de mettre les pieds dans ces fameuses bouses de vache. C'est le moment présent, c'est cultiver le moment présent. Par contre, comme vous dites, oui, si on reste sur « rien n'arrive par hasard », je raisonne totalement avec votre observation. C'est pour ça qu'il y a le « oui » avant et un « oui » en majuscule. Mmh. Puisque le « oui » va être un choix qui va venir du cœur ou pas. Puisqu'on peut tous rester bloqués sur un événement. Et ça commence très jeune, puisque vous parliez du Petit Prince, on parle de l'enfance, je parlais de ma fille qui a 7 ans. Déjà à l'école, on souligne en rouge les fautes d'orthographe, ce qui ne va pas. Et peut-être un enfant à 9 ans va déjà lui dire qu'il n'a pas d'avenir en langue française parce qu'il fait régulièrement 12 fautes d'orthographe. Bien, personnellement, ce que je propose, ce n'est pas le monde des bisounours, mais c'est de regarder différemment et c'est de féliciter l'enfant qui fait 188 mots justes sur 200 depuis 2 ans à des dictées. Parce que si on porte ce regard sur lui, automatiquement, vu qu'il est jeune et pas trop abîmé, il va totalement percuter sur ça. Et tout un nouveau monde s'offre à lui et en moins de 3 mois, avec cette approche, l'enfant fera soi-disant 0 faute. Mais c'est vraiment cette capacité du regard et l'enfant, ils l'ont ce regard. Puisque constamment, il s'émerveille, il saute, il dit « je t'aime », il pleure, il s'effondre et il se relève. Donc, je crois que les plus grands mentors, c'est, vous m'avez dit, coach, ou dans le livre « Coach des leaders », ça, c'est du marketing. Pour moi, le plus grand mentor, c'est un enfant. Puisqu'il est complètement entier, il est dans l'être, il est dans le cœur. Il n'est pas encore dans le jugement du bon, du mauvais, dans ces notions qui sont complètement manipulées. On est dans un monde de tête. Et je suis pas contre le monde de tête, mais pour moi, le cœur, c'est la boussole, c'est l'indicateur, c'est ce qui va donner vie. Après, le monde de la tête, il va nous permettre de construire, de créer un rêve, de le façonner. La pensée, c'est simplement une matière première qui est un argile. Qu'est-ce qu'on fait avec cette argile? Et c'est quand même plus beau d'apprendre à façonner son argile pour créer des œuvres. Aux autres, on va offrir notre passion de créer ces grandes œuvres. Et l'œuvre, qu'elle soit pas parfaite, c'est pour moi une perfection. C'est Virginie La Satire qui disait ça, « Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait et c'est parfait.
» C'est Alain Braconnier qu'on recevait il y a quelques semaines qui a écrit un livre justement sur l'enfant optimiste et il disait « L'enfant optimiste, finalement, il suffit de regarder un petit qui fait ses premiers pas, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. » Donc essayons de garder cet enfant qui continue à y croire et puis se relever coûte que coûte.
Totalement. Et tout à l'heure, vous parliez un peu de mon parcours. Et c'est vrai que, oui, ici maintenant, quand on vient me chercher en entreprise ou dans le sport ou un aventurier, c'est pour atteindre un objectif. Mais derrière, l'important, c'est la manière de l'atteindre. Donc la manière qui est
encore une fois le chemin.
Voilà, qui est totalement ancré, c'est que ça doit être dur, on doit souffrir, on doit suer. Et puis à la fin, il y a une petite cerise à se partager à beaucoup. Et je pars du principe, si j'observe tous les grands virtuoses, que ce soit de la musique classique, que ce soit Nijinsky en danse, que ce soit des grands athlètes, des grandes mères de famille, des grands pères de famille, qu'est-ce qu'ils ont avant tout? C'est une facilité à être avant de faire.
On fait allusion à votre parcours. C'est vrai que, entre, je disais, gardien de but, aujourd'hui coach des âmes, c'est une longue histoire forcément. C'était une obligation de reconversion.
Oui, rien n'arrive par hasard, mais c'est comme si à chaque tournant de ma vie, il y avait une évidence qu'il fallait que je fasse ce pas dans un non-connu qui pouvait être déstabilisant par rapport à une logique. Mm-hmm. Puisqu'être footballeur, quand on est trop petit et qu'on n'arrête pas de nous le répéter, j'ai persévéré et j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Mais à ce moment-là, il y avait quand même la croyance, elle était rentrée. Même si j'étais devenu grand, au fond de moi, je me sabotais. Donc, il y a eu ce virage. Et puis, à un moment donné, de me dire, mais... Moi, ce qui m'a passionné dans le football, c'est le jeu, c'est le partage avec les autres, c'est le défi, c'est ce côté vivant. Mais ici, maintenant, je ne vibre plus sur ça, sans critiquer le monde du football.
Non, mais vous en êtes sorti, voilà, vous êtes passé à autre chose.
Il y avait un côté poésie qui me manquait, que j'ai rencontré avec les arts martiaux, même si ça peut sembler paradoxal, ou le milieu de la danse, puisque tout d'un coup, c'est le même corps. Mais on n'est pas footballeur, rugbyman, bodybuilding, danse classique, hip-hop. C'est toujours le même corps. Et là, j'ai eu la chance en Californie de rencontrer des gens qui partageaient leur passion et leur truc aussi. Et j'ai remarqué que j'étais un athlète de haut niveau. Ok, j'étais une machine de haut niveau. Mais l'émotion dans la culture occidentale sportive que j'avais été, justement, que j'avais suivi, il n'y avait pas de place à l'émotion, comme dans les affaires. Et je vais faire exprès de dire un homme d'affaires qui a peur. C'est inadmissible dans l'ancienne compréhension des choses. Mais c'est complètement crétin ce raisonnement, puisque nos émotions, sont des signaux amis, c'est notre GPS émotionnel qui nous indique « j'ai une émotion désagréable ». J'ai bien dit désagréable et non pas négative. Elle m'indique que je suis désaligné sur des besoins vitaux. Des besoins vitaux, ça veut dire une histoire de Thierry à Thierry, de moi à moi-même. Si je me désaligne trop longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre confiance, je vais avoir peur, je vais simuler. On est dans un monde de simulation, tout le monde fait croire qu'il maîtrise tout, mais sans jamais y croire lui-même. Ce qui nous emmène en droite ligne dans le burn-out, mais on n'ose même pas se l'avouer à ce moment-là parce qu'on se voit comme un échec et de s'exprimer que peut-être que j'ai mis l'échelle de la réussite sur le mauvais bâtiment. Et ce qui est très dur, c'est que souvent on est en haut de l'échelle et peut-être on se rend compte que ce n'est pas sur ce bâtiment-là qu'on voulait grimper. À ce moment-là, oui, rien n'arrive par hasard, ce n'est pas grave. On peut redescendre de l'échelle, avoir l'humilité de prendre peut-être une plus petite et de remonter à un autre bâtiment. Voilà, pour moi, c'est cette notion-là. Et quand je disais crétin, ce côté l'homme d'affaires ou la femme d'affaires doit tout maîtriser, non, un manager n'a qu'une seule personne à diriger, lui-même. Et là, on tombe dans vraiment un monde qui n'est pas dans le côté rationnel et le contrôle. Voilà, nous, en ce moment, ce qui passe entre nous avec les auditeurs, ce sont nos voix. 38% vibrent dans la voix, il n'y a que 7% dans les mots qu'on prononce. Et il y a 55% dans nos gestes, dans nos regards, qu'ils ne voient pas ici maintenant.
Alors redites-moi, il y a 38% dans nos voix, il y a...
55% dans nos gestes, nos regards. Donc ça veut dire que 93% d'une communication d'un manager avec ses collaborateurs, d'un entraîneur avec ses joueurs, d'un parent avec ses enfants, c'est sensuel et physique. Il n'y a que 7% dans les bons mots. Je ne suis pas en train de dire que la communication non violente, que toutes ces techniques, ce n'est pas important. Mais 93%, c'est physique. Et ce qui est fabuleux, Maurice Béjart le met en avant, on ne peut pas mentir avec le corps. Même Nijinsky ne peut pas mentir avec le corps. Ça vibre. Voilà pourquoi les enfants sont si authentiques. Parce qu'ils ne mentent pas. Et si le parent rationnel va faire croire qu'il maîtrise tout, l'enfant va devenir insupportable. Je fais un raccourci.
Oui, oui. Mais j'ai une question là-dessus. Oui. Vous savez pourquoi ils courent tout le temps? Quand vous regardez les enfants, ils courent tout le temps.
Parce que pour moi, l'enfant, il court tout le temps parce qu'il a déjà, il brûle pas son énergie à réfléchir et à se culpabiliser. Est-ce que c'est à droite, à gauche et tout? Il vit l'instant avec cette recrudescence d'énergie parce qu'il y a une abondance. Elle est réelle.
Ah oui.
Elle est réelle. La preuve, alors la souplesse. L'enfant, instantanément, il est dans son rêve. Il vit son rêve, il est pilote de course, après il est agriculteur, après il est papa, après il est bébé. Et tout ça, il le fait d'une manière authentique et il y croit. Si je prends un athlète ou quelqu'un que je vais accompagner dans son rêve, ou moi-même qui m'accompagne par rapport à ce projet de scène, de spectacle, ce n'est qu'un rêve, je ne fais que jouer. Alors oui, derrière, il y a de la sueur, mais une sueur qui est choisie. Parce qu'il va falloir répéter, si je vais mettre des claquettes, ben je vais devoir travailler les claquettes, même si à l'origine je ne suis pas Fred Astaire. Ça se travaille et je suis persuadé que des fois, certains, comme moi-même, on doit travailler plus longtemps. Et l'importance justement d'éviter de trop écouter le regard des autres, puisque quelqu'un qui va me dire que je ne vais pas y arriver ou que je ne suis pas capable...
Oh, c'est long, tu as encore tout ce chemin à faire,
exactement.
Tu te rends compte.
Ça, c'est ce qu'il y a dans sa tête et il est important, et là j'insiste via les auditeurs, ça ne sert à rien de croire quelqu'un qui ne croit pas en vous. Donc croyez à votre rêve, croyez à vos possibles, entourez-vous de gens qui les ont réalisés, pas de gens qui vont constamment vous dire ce qui ne va pas. Un grand rêve, c'est simplement créer, féconder, comme disent les Indiens, les Toltecs, féconder l'instant pour créer quelque chose de beau. Ça peut être un gâteau, un sourire, un jardin ou
au quotidien,
un immense concept hospitalier. Tout est possible. Je dis toujours ça à mes enfants, comme je répète à mes clients et comme je le répète à moi-même, parce que c'est fabuleux avec ce genre de métier, c'est qu'on se parle à soi-même finalement. Mmh. Alors à force de se parler, on commence à plus l'intégrer. Mais je dis toujours, soit je vais un regard qui va être dans la poubelle, de voir tout ce qui ne va pas, soit j'ai un regard du monde des possibles qui sera à l'opposé. Je ne peux pas regarder la poubelle et le monde des possibles s'ils sont à l'opposé dans une pièce en même temps. Je peux en regarder qu'un. Qu'est-ce que je décide de regarder? Alors oui, rien n'arrive par hasard avec le oui énergisé d'espoir ou le hasard, il est plutôt négatif avec moi-même. Et à nouveau, je vais avoir raison puisque c'est moi qui choisis. Albert Einstein l'a mis en avant. La vie est amicale ou inamicale. Le bonheur, c'est que c'est chacun de nous qui choisissons. Ce n'est qu'un regard. On l'a vu dans des situations extrêmes de certaines personnes qui, dans des situations extrêmes, ont continué de regarder les papillons, quoi.
Se dire que, voilà, on peut changer les choses. Thierry Schneider, on va écouter un peu de musique. Avant de se retrouver, votre livre est paru aux éditions Un Monde Différent, oui, majuscule, rien n'arrive par hasard. Écoutez de la musique, ce sera la douce voix de Berry. Si c'est la vie, c'est une jolie leçon. Et nous nous retrouvons juste après. Deuxième partie d'Ego System, nous recevons Thierry Schneider. Oui, rien n'arrive par hasard et de belles rencontres, Emma, et votre livre et les chapitres. Alors, ça va d'une petite caissière qui s'appelle Anaïs, qu'on n'oublie pas. Il y a une Australienne, il y a Mariana, la patronne d'un bistrot dans le Sud, il y a une vieille dame. Toutes ces dames, j'ai relevé les dames, je ne sais pas pourquoi, vous les avez rencontrées par hasard?
Bien, voilà, c'est maintenant avec le recul, j'ai pu remarquer qu'à des moments précis de ma vie, il y a eu des rencontres clés. Ici, maintenant, je me rends compte que ces rencontres clés, elles sont tout le temps présentes. Il suffit de les remarquer. Dans mon chemin d'apprentissage, vous parlez de cette vieille dame dans un aéroport à Sydney, oui, avec son fameux sourire et son ruban rose. C'est une rencontre marquante puisqu'elle m'a libéré du manque de confiance en moi-même en me posant deux questions déconcertantes. Elle me dit « Mais c'est quoi ton problème, jeune homme ?» Et je lui dis « Bien, mon problème, c'est que je n'ai pas confiance en moi et je me demande toujours ce que les autres pensent de moi. » Et là, elle éclate de rire et elle me dit « Welcome to the club ». Donc j'étais dans cet aéroport, dans cette file d'attente. Et elle me dit « Bien, je vais te conter une histoire qui va te guérir du manque de confiance. » Elle me dit « Bien, voilà, imagine maintenant qu'on prend une photo dans cette file d'attente. » Et quand tu es dans l'avion, l'hôtesse te donne une photo. Quelle est la première personne que tu regardes sur la photo ?
Sur cette photo, oui.
Et j'ai répondu « moi ». Et
là, elle a commencé, tout un chacun.
Voilà. Elle me dit « moi, moi, moi ». Ça fait des milliers de fois que je raconte cette histoire dans le monde entier. C'est toujours moi. Alors elle me dit donc « arrête de te demander ce que les autres pensent de toi puisqu'ils ne te voient pas ». Et là, elle me dit « deuxième question de l'antidote. Quelle est la première chose que tu regardes de toi sur une photo collective ou individuelle ?» Et là, je lui dis, la première chose que je regarde, c'est quelque chose qui n'aille pas, soit les yeux rouges, soit le mal coiffé, la chemise. Et là, elle me dit, welcome to the club. La première chose que fait une grande personne, je le dirais dans le monde du Petit Prince, c'est de regarder ce qui ne va pas. Elle me dit, tu le vois dans le sport. Et c'est vrai, je peux le confirmer maintenant, j'accompagne des gens qui ont soi-disant des plastiques parfaites. Après un shooting, ils regardent le petit détail qui ne va pas pour eux. Donc, oui, le regard qu'on porte sur soi, il va être très important et cette vieille dame m'a libéré de ça. C'est-à-dire que plus jamais j'ai décidé de vouloir prouver à quelqu'un que je suis compétent. Quand j'étais joueur de foot, l'entraîneur me mettait, je voulais lui prouver dans le match qu'il avait bien fait de me mettre. Et je ratais mon match. L'important, s'il m'avait mis, c'est qu'il croyait déjà en moi, il fallait juste que je joue le rôle de joueur de foot. Mm-hmm. Et à l'époque, gardien de but, j'arrête les ballons. C'était tout aussi simple que cela. Eh bien, c'est cette notion. Et on est complètement dans prouver à une autorité.
Qu'on est légitime.
On parlait un peu burn-out tout à l'heure. C'est qu'au fond de nous, on se sent tous non légitimes par rapport à des défis qui grandissent. Et ça va de plus en plus vite. Puis il y a de moins en moins de reconnaissance. D'où l'importance, avant tout, de prendre soin de ces fameux besoins vitaux. Parce que moins je prends soin de mes besoins vitaux, plus je suis dans la peur, plus je suis dans la peur, plus dans le, j'appelle ça le jeu social, je vais chercher la reconnaissance, le regard de l'autre qui me dit « c'est bien ». Et là, c'est dangereux. Parce que si on ne vous le dit pas, c'est bien.
Qu'est-ce qu'on est malheureux ?
Qu'est-ce qu'on est malheureux et qu'est-ce qu'on va encore plus se saboter ? Et puis si l'autre qui vous voit magnifique prend la porte, c'est dangereux. Puisque celle qui vous a vu magnifique prend la porte, ça veut dire que je suis moins que rien. D'où l'importance de nourrir soi-même avec humilité. Alors nourrir quoi ? Eh bien, pratiquer des choses qui nous font plaisir. Parce que quand on pratique quelque chose qui nous font plaisir, on est simplement nourri. Ça peut être partagé et on peut avoir une reconnaissance dans ce partage. Et c'est que du bonheur en plus. Mais s'il n'y a pas la reconnaissance dans ce partage, ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait le gâteau, par exemple, pour que les gens...
C'est quand même idéal s'il l'apprécie.
Vous le mettez avec l'amour, tout. Mais il peut avoir quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Et voilà, les lecteurs vont me dire « Ah mais c'est fabuleux, merci, vous m'avez aidé dans tel moment et tout ». C'est sa richesse à elle qui a résonné tout d'un coup avec la mienne à un moment. Mais on est deux là-dedans. Mmh. C'est une rencontre à nouveau. Et c'est ça qui est magique, c'est cette rencontre. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des lecteurs qui vont dire « Mais c'est complètement nul, c'est une lecture, c'est pas la mienne ». Et ainsi de suite. Donc je crois que c'est important d'avoir cette humilité, de se détacher de ce regard. J'ai un ami africain qui, lors d'un travail pour le BIT, qui m'avait conté cette petite anecdote du sage du village qui vivait un peu en retrait. Et un jour, il y a un énergumène, jeune, excité, qui vient dans le village et qui dit « Je veux voir votre sage du village ». Ils sont effrayés, ils lui disent « Où est sa hutte ?» Il arrive devant la hutte, il est assis en tailleur. Et il l'insulte. Pendant plus d'une heure, il l'insulte, il lui verse des immondices de reproches. Et le vieil homme, il reste en tailleur, souriant, et tout d'un coup, il y a un long silence. Et là, le vieil homme, il lui dit « Est-ce que je peux vous poser une question ?» Et le jeune excité, « C'est quoi ta question ?» Il dit « Si vous offrez un cadeau et que la personne à qui vous l'offrez refuse le cadeau, à qui appartient le cadeau ?» Et là, il dit « Bien, à celui qui l'a acheté !» Il lui dit bien, en se levant avec grâce, ce vieil homme, il dit bien, tout ce que vous m'avez offert pendant une heure, je l'ai bien entendu, mais je vous le rends. Bonne journée. Et pour moi, ça, c'est purement ce que j'appelle l'art martial du Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est-à-dire qu'on va prendre une situation qui est soi-disant hyper chargée négativement, désagréable, mais on ne va pas la porter sur son épaule. On va la rendre, ou on va l'utiliser encore mieux pour faire une alchimie qui va transmuter ça en possible.
J'aimerais qu'on en reste aux rencontres, Thierry Schneider, parce que cette émission parle du lien égo-système. Et j'ai beaucoup aimé justement toutes ces rencontres. Et c'est que tout d'un coup, à condition d'y être attentif, à condition de les accepter, on peut tous rencontrer quelqu'un qui, même en quelques secondes, en quelques minutes d'échange, va vous faire vivre une intensité qui vont rester toute la vie, finalement, des leçons, des enseignements ou une sorte de caillou, quand je parlais des cailloux dans la poche.
Oui, et c'est là où on a quand même cette chance. Alors, des fois, il y a des cailloux qui sont tout de suite enchantés et enchanteurs, oui. Et on aimerait tous les recevoir tout de suite. Des fois, dernièrement, c'est une personne dans le monde des affaires qui me disait ça, mais c'est génial, toute cette approche d'avoir... je rêverais d'avoir un manager qui puisse être focalisé sur les possibles, sur les talents, sur les qualités, et non pas sur tout ce qui manque. Mais malheureusement, j'ai le contraire. Avec Oda, je lui dis, mais de nouveau, gratitude, puisque vous avez la chance dans l'ici et maintenant d'avoir en face de vous le prototype de tout ce que vous ne voulez pas devenir et pas provoquer chez l'autre. Alors c'est un entraînement un peu plus à la dure pendant quelques temps, mais ce caillou, comme vous dites, il peut se transformer d'une manière lumineuse dans sa capacité relationnelle à ne pas tomber là-dedans. Donc on revient dans ces notions après d'effet miroir. Mais c'est vrai qu'on peut voir tout comme un échec ou un succès. Mais tous les j'en reviens sur ces notions de grands champions, de grands musiciens. Ce sont ceux qui tentent le plus. Et quelqu'un qui tente le plus, c'est celui qui échoue le plus. Mais à force de tenter Edison, il a tenté
une fois
combien
ou deux fois où ça va marcher.
À un moment, on est dans la cible. Mais tenter ne doit pas devenir quelque chose de laborieux. Tenter doit rester un jeu. Tout à l'heure, je parlais du jeu social. Pour moi, il y a prendre soin de ses besoins vitaux, ce sont vraiment les racines, comme un arbre. Et pourquoi avoir ces racines nourries? Puisqu'après, comme vous l'avez dit avec Ecosystème, on rentre en relation. Alors oui, si on nous dit merci, oui, si on nous dit c'est fabuleux, on en sera d'autant plus nourri. Pour moi, c'est ça le changement de notre société. On a vraiment viré dans un nouveau paradigme. Le paradigme précédent, c'est qu'est-ce que ça va me rapporter? Dans le nouveau paradigme, la question, c'est qu'est-ce que je vais offrir?
Vous pensez qu'on a changé?
Pour moi, on a changé. Après, ça ne veut pas dire qu'on a encore les exemples. C'est pour ça qu'on est dans un monde très chaotique, parce que les deux se confrontent. Toute la génération Y et tout ça, ils ont déjà basculé dans un autre monde qui est un monde instantané de mandat. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans la durée. Mais il ne faut pas leur faire courir des marathons. Il faut leur faire courir 10 challenges de 10 mètres, avec de l'intensité, avec du sens. Donc on est dans cette notion de sens pour moi dans le nouveau paradigme.
Qu'est-ce qui a fait basculer avant le qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce qui a fait basculer pour vous? Je vous trouve optimiste parce qu'il me semble que si on se pose cette question-là, ça va aller.
C'est nouveau, on tombe dans des extrêmes. C'est que l'ancien système, qu'est-ce que ça va me rapporter? Ça marche pas. On le voit à tous les niveaux, au niveau de la nature, au niveau des relations, au niveau de l'entreprise. Et il y a quand même des audacieux, même si c'est dans un monde par exemple économique, ou sportifs qui utilisent le nouveau paradigme et qui sont là pour vraiment donner. On n'a rien réinventé. Si on regarde à l'origine, comment les affaires se faisaient, je dirais, c'était entre deux personnes. Déjà, les gens prenaient le temps de se rencontrer. Et puis, on remarquait peut-être qu'on avait des affinités avec certaines personnes. Et dans ces affinités avec certaines personnes, on trouvait des arrangements d'aider l'autre parce qu'on avait quelque chose qui pouvait lui apporter un plus et vice-versa. Ici, maintenant, on intensifie le marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut vraiment faire croire que notre produit, c'est le meilleur. Donc, on ne peut pas avoir la profondeur d'une relation amoureuse, d'un regard, d'un moment de silence avec un enfant, d'un moment de partage avec des collaborateurs. Je le vois, quels que soient les univers, quels que soient les pays, ils ont tous le même besoin. De se sentir utile, de se sentir vraiment, de pouvoir apporter une pierre, que ce soit un projet professionnel, sentimental, un projet sanitaire. C'est vraiment d'être dans cette notion de management des compétences sociales.
Mais le qu'est-ce que j'ai à donner, Thierry Schneider, même si, et vous le dites, il pointe dans certains modèles économiques, il pointe dans tout d'un coup une autre approche des choses, on est loin d'être tous contaminés par le qu'est-ce
Totalement.
Que j'ai à donner. Hein.
Totalement. Par contre, ce qui est fabuleux, c'est que chacun peut le débuter à sa manière. Et pour bien le débuter à sa manière, et souvent ça va être repris par les défenseurs de l'autre paradigme, comme de l'égocentrisme, puisque j'ai commencé avant de donner. Il faut se donner du temps. Donc c'est vraiment cette notion, de nouveau on est dans le paradoxe, c'est se donner du sens à soi dans ce que l'on va faire. Alors peut-être qu'à un moment donné, je vais faire purement mon travail, pécuniairement, parce que ça me permet juste d'assumer mes charges. Mais je peux changer mon regard vu que je vais le faire. C'est une étape. Et en changeant mon regard déjà de cette étape, au lieu de la voir comme horrible et de voir tous les gens autour de moi négativement et de me pourrir ma vie à moi et de mes proches, ça va être justement de me remettre progressivement dans cette dynamique. J'avoue, c'est pas facile. C'est comme l'étape quand votre femme vous quitte. Il y a le chemin de facilité, vous retombez dans les bras de quelqu'un, puis vous corrigez rien chez vous. Là-dedans, il y a un cadeau. Ben, je vais faire de mon mieux pour simplement l'extraire et le cultiver. Et finalement, cultiver, c'est quand même le plus beau des métiers. Parce qu'il va sortir un résultat. Des fois, il y a des meilleures saisons que d'autres. J'ai eu la chance d'être élevé à la campagne. On va travailler la terre différemment et on va remarquer que ça ne sera pas comme le professionnel de la terre au départ, mais à la sortie, bien, ça marche. Il y a une connivence, j'adore ce mot que vous m'avez déjà mis dans l'émission tout à l'heure. Cette connivence, on est partenaire avec, après, c'est la nature, on l'appelle comme on veut, toutes ces choses. Ça peut être le voisin, ça peut être la voisine, le professeur, un projet. Il y a toute cette part non visible, non connue, où réside la magie, le mystère. Mais le mystère, ça doit rester mystérieux. Parce qu'on le voit bien dans une relation amoureuse, le mystère apparaît en un instant. C'est déroutant. Si vous êtes marié et que vous tombez amoureux, c'est déroutant. Parce que par rapport à tous vos valeurs, votre contrôle, c'est inadmissible. Mais sur un plan purement de l'être, c'est l'émotion, le sentiment, la rencontre est là. Je ne dis pas quel va être le bon choix à faire derrière. Mais l'instantané de là, c'est une révélation qui est, c'est maintenant. Et ce moment-là, c'est de l'être à l'état pur et on ne peut pas tricher avec ça. On le voit sous d'autres latitudes, il n'y a pas de cours de danse. Il n'y a pas de cours de chant, il n'y a pas de cours d'herboristerie. Les gens sont encore dans ce dialogue naturel. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de donner des cours de danse et ainsi de suite, mais c'est naturel. Un enfant, il va danser, il va chanter, il va cultiver. Après, on va lui mettre, et c'est bien pour le construire d'une certaine manière, mais il ne faut pas perdre l'être, puisque l'être, c'est notre liberté. C'est notre liberté d'émouvoir. Voilà, je vous disais tout à l'heure, on parlait du spectacle. Pour moi, le spectacle, oui, il y a tout un côté one-man show où je raconte ma vie, mes histoires, mais pas dans le
côté...
Vous
êtes très dans le show, comme ça. Dans les extraits que j'ai vus, en tout cas, vous êtes, il y a une espèce de dynamique comme ça.
Il y a un mariage, je dirais, entre le masculin et le féminin, mais je suis très dans le show puisque la société est dans le fameux show de la performance. Mais je me raconte et je tombe souvent à terre dans ce spectacle. Pour proposer une autre solution, qui est la fameuse voix, j'appelle ça du cœur de l'être, qui me conseille toujours dans le bon sens. La voix du combat, c'est il y a un obstacle, il faut vaincre l'obstacle, c'est simple. La faute, c'est à l'obstacle, donc on met de l'énergie pour contrer, pour réparer. La voix du cœur, c'est la voix de l'art martial. Ils ne nous disent pas de rentrer compte, ils nous disent d'utiliser l'énergie à disposition, d'accepter, donc d'avoir même de la gratitude et d'en faire quelque chose.
De faire corps avec l'obstacle.
De faire corps avec l'obstacle, de l'épouser. Donc on est dans quelque chose de très sensuel, de très charnel. La vie est charnelle, elle n'est pas intellectuelle. Et la poésie, c'est charnel avant tout. C'est un art. Et pour moi, c'est ça un leader. Un leader est un poète, qu'il soit dans n'importe quel domaine. C'est quelqu'un qui va savoir faire vibrer.
Même s'il est grand patron du CAC 40. C'est un poète.
Mais je dirais, derrière, dans cette notion-là, de nouveau, il y a des excès dans tout et on ne peut pas faire de généralité. Il y en a qui vont jouer le jeu et j'ai la chance justement aussi d'être sur certains projets où...
vous appelle, c'est qu'on accepte aussi d'être bousculé et puis de voir les choses un peu autrement.
Ou au contraire, qu'ils sont déjà dans la bousculade pour bousculer d'autres.
D'accord.
Mais pour ça, ils ont besoin d'être soutenus et puis d'avoir un autre regard de cette notion. Donc ça, je trouve aussi important d'avoir ce regard. Il y a certains qui sont complètement dans l'ancien paradigme, justement, de qu'est-ce qu'on va prendre.
Qu'est-ce que ça va me rapporter ?
Et puis d'autres, qu'est-ce qu'on va léguer ? Et je crois que la plus grande arnaque qu'on nous propose, c'est de nous faire croire qu'on peut s'assurer que ça ne va pas changer. Et j'en reviens à la vieille dame qui concluait comme ça. Elle me disait, mais ce n'est pas parce que j'ai 88 ans sur ma carte d'identité que je suis âgée. Je suis une jeune fille. Elle me disait à cette époque, c'est pas parce que t'as 31 ans sur ta carte d'identité, ici maintenant t'es vieux. Mais pas dans un sens négatif, cette jouerie, elle peut être perpétuelle. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas être dans un concept de s'assurer sur certaines choses, mais le risque c'est la vie. Donc est-ce qu'on courtise le risque, c'est pas faire n'importe quoi. Mais l'enfant ne fait que courtiser le risque, c'est pour ça qu'il s'amuse, parce qu'il est vivant. Et le parent n'arrête pas de lui dire... Ne tombe pas, ne claque pas la porte, ne cours pas. Et comme je l'exprime, si maintenant aux auditeurs, je dis « ne pensez pas à un éléphant rose », la première chose que je leur mets dans la tête, c'est un éléphant rose.
Exactement. À propos de l'éléphant, il y en a une que je trouve très jolie dans votre livre, c'est que vous parlez de la docilité des éléphants. Ça nous amène sur un autre chapitre, on pourrait peut-être y revenir après le disque, mais j'aime beaucoup cette histoire d'éléphant où vous racontez que les petits éléphants, pour ne pas qu'ils s'en aillent quand ils sont petits, on les accroche à d'énormes troncs d'arbres.
Avec une grosse corde.
Avec une grosse corde. Et puis, quand ils grandissent ?
Eh bien, quand ils grandissent, à force d'avoir essayé d'enlever l'arbre et la corde, eh bien, ils se résignent.
Ouais.
Donc, ils ont mis leurs limites. Je vais appeler ça dans notre monde d'adultes de croyance.
Ouais.
Et ce qui fait qu'après, on les attache avec une cordelette à un caddie d'un grand distributeur suisse ou étranger.
Un tout petit truc, quoi. Ils peuvent facilement partir,
Passe
mais ils se sentent tellement conditionnés.
Ben, c'est la barrière dont je vous parlais quand j'étais athlète. J'étais trop petit, j'étais devenu grand, 1m90, mais dans ma tête, j'étais resté petit physiquement. Donc ça doit se déconstruire. Et pour terminer sur le ne pas, à l'enfant, dites à l'enfant, marche tranquillement, maintiens ton équilibre sans lui transférer notre peur qu'il va se faire mal, ou ferme délicatement la porte, même ce qu'on appelle soi-disant un enfant turbulent, il va écouter. Donc quand un enfant turbulent, on va lui dire t'écoute pas, ça fait 20 fois que je te dis de ne pas courir, la preuve tu es tombé, l'enfant il écoute. Comme j'entends des entraîneurs ou des managers qui racontent constamment dans leur speech ce qu'ils ne veulent pas que leurs collaborateurs ou joueurs fassent, ils leur mettent dans la tête. Dites ce que vous voulez. La vie est de nouveau est très simple. C'est comme si vous allez sur Google, vous mettez « je déteste la musique R&B », vous cliquez, vous avez les meilleurs sites référencés d'R&B, vous cliquez, vous passez 24 heures à écouter du R&B et à vous plaindre que vous n'aimez pas le R&B et qu'il n'y a que du R&B sur les radios. Cliquez « musique lyrique ».
Et là, vous aurez les bonnes propositions.
Si c'est. Donc voilà, il y a cette relation sans être simpliste. Mais on choisit.
Thierry Schneider, oui, rien n'arrive par hasard. Aux éditions Un Monde Différent, reste notre invité pour Égosystème dans la dernière partie que nous allons écouter après un titre extrait d'un album sorti au printemps dernier. C'est un jeune Haïtien qui a quitté sa terre natale pour la Suisse et qui a fait des études d'ingénieur en électronique et qui s'est attelé un jour à essayer de ramener le soleil de chez lui en Suisse. Et c'est plutôt réussi. Son titre, et c'est bien pour ça qu'on l'a choisi, c'est pas un hasard, ça s'appelle Lâcher prise et le nom de ce jeune homme, Paul Beaubrun, et son nom d'artiste, c'est Zoz.
Wapé posé tête ou question, comment va ça faire arriver et où mon frère est?
Il faut lâcher prise, oh, et aller, aller, aller. quoi peut poser tête aux questions. Mais comment baga ça fait arriver? Moi poser tête aux questions. Mais comment faire pour arriver? Mais faut lâcher, faut laisser couler. Ce soir, qui est baga qui en dedans. Avancez mon frère, avancez ma soeur.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Lucerne-Cassau, un bouchon s'étend sur 9 km entre Herzfeld et l'entrée nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin. L'attente correspondante est d'une heure et demie environ. Du côté tessinois, on compte 5 km de colonne entre Quinto et l'entrée sud en direction de Lucerne, soit environ une heure d'attente. Il est conseillé d'emprunter un parcours alternatif, par exemple l'axe du Grand Saint-Bernard ou celui du Simplon. Rappelons que la route reliant Göschnen à Andermatt, est interdite au trafic en raison de travaux.
Thierry Schneider, conférencier, coach.
Non, moi je dis rien de tout ça. Je dis voilà Thierry Schneider et c'est vrai que j'ai des activités d'auteur, de coach, mais je préfère le mot mentoring parce que mentoring, il y a, comme je disais, une relation à du vécu. C'est ouais. Et tout le monde est mentor de quelqu'un. On est tous mentors. Moi j'ai mes mentors. Voilà, c'est ces fameuses rencontres. Il y a des mentors qui vont nous suivre, puis il y a des mentors que la vie nous offre sur le chemin au quotidien. Et puis c'est vrai qu'il y a toute la partie conférence événementielle avec ce fameux spectacle. Là, on vient de finir sur 2 zéniths pour le lancement du livre. Le spectacle, en fait, c'est l'atmosphère du livre. Mais en réalité, avec un musicien qui est Antoine Vaccaro, qui justement est un musicien qui a également travaillé pour ingénieur de son, pour Maurice Béjart, qui est un ami avant tout, puis on a créé des musiques là-dessus. Il y a beaucoup de poésie, il y a de l'interaction avec le public, ça dure 1h30.
C'est une sorte d'ovni comme ça. Hein,
c'est un ovni, mais qui est physique, parce que pour moi, le corps, il est quand même au centre. Quand je parle de l'être, on ne peut pas mentir avec le corps, donc c'est un partage vibratoire. Alors c'est vrai que vous avez été sur le site, il y a des extraits de différents spectacles. Ce qui est peut-être souvent mis en avant, c'est les côtés plus dynamiques. Mais il y a aussi beaucoup de parties silencieuses, j'insiste, des parties de poésie. Et je remarque que le public, quel que soit, on est passé au Brésil, on est passé dans différents pays. Certaines banques nous ont pris aussi pour ce genre de spectacle. Il y a des publics plus privés. Mais je me rends compte qu'on a toujours en face des êtres humains qui résonnent par leur émotionnel et qui se retrouvent parce que c'est un voyage. Et ils se retrouvent dans ce voyage. À des moments, justement, on tombe, on se relève, on apprend une leçon ou pas. On retombe, puis il y a les rencontres inattendues. Et puis j'insiste, côté vraiment physique, du corps qui parle, d'un regard, d'une poésie, du silence. Il y a aussi beaucoup de silence à des moments clés du spectacle. Parce que dans une vraie relation amoureuse, par exemple, le silence, il parle d'autant plus. Les amoureux, ils parlent très peu. Ils parlent avec le fameux 93%, les regards, le toucher, le silence. Et tout ça est habité de leur corps, de leur être. Plus on parle dans une relation, alors c'est bien parce qu'on a envie que
après
ça...
Après on parle.
Oui, et puis souvent on dit, mais je vais le faire d'une manière positive, d'une manière non violente, je vais poser des choses pour respecter mon cadre. Puis l'autre, il fait la même chose en même temps, mais on commence à se parler beaucoup et à commencer à regarder ce qui nous plaît moins de l'autre. Mais pourquoi ça marche une relation amoureuse, comme le disait ce fameux Tony, ce vieil homme en Australie? C'est que les amoureux, ils ne font instantanément que regarder qu'est-ce qui brille chez l'autre et vice-versa. En même temps, quand ils sont seuls, ils repensent à l'autre dans tout ce qui brille, voire plus. Et quand ils se voient, ça brille encore plus. Le souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à continuer à cultiver ça parce qu'on est entouré d'autres gens qui ne sont pas dans cette relation-là ou qui ne sont plus dans cette relation amoureuse et qui commencent à leur dire « oui, mais méfie-toi, il a aussi ses défauts, elle a ses défauts » et ainsi de suite. Puis plus on va commencer à regarder ça et parler de ça, ben moins on passe de temps sur l'autre côté. Et cette fulgurance, on va progressivement la perdre.
Trois ans, hein, du bec BD. Vous vous dites combien?
Ben, ça dépend si on continue de cultiver. Ce qui va vraiment être important là, c'est de... Quand on me demande d'accompagner un athlète pour qu'il soit champion du monde, au moment où on me demande de l'accompagner, il n'est pas soi-disant champion du monde. Donc moi, je dois le voir déjà comme ça. En fait, c'est de se raconter une histoire assez longtemps, assez fort, sur du concret que l'autre a, pour qu'il se la raconte, pour qu'il la raconte au monde entier. Mais au départ, on est au point de départ, comme dans une relation amoureuse. S'il se met la limite très vite, il ne le saura pas. Il y a tout un passage sur Dan Walsall, par exemple. C'est une leçon, pour les enfants. Oui. Voilà, à 8-9 ans, tous les matins, il prenait sa mobylette avant l'école. Il allait nager des bassins et des bassins comme petit déjeuner. Il reprenait sa mobylette. Après, il combattait pour ne pas dormir dans la classe pour apprendre. Parce que s'il n'avait pas les études, il ne pouvait pas continuer la natation. Puis un jour, il a été l'homme le plus rapide sur 50 mètres. Ça ne s'est pas fait en un instant, mais il a toujours vibré. Et c'est cette notion-là, pour moi, qui est importante à cultiver. Et j'insiste sur l'amour parce que je pense qu'on ne prend plus le temps vraiment de se rencontrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est non visible.
L'essentiel est invisible avec les yeux. On retombe sur Saint-Exupéry.
Exactement.
Là.
Pour moi, si vous me demandez quelle est ma source d'inspiration première de toute cette méthodologie, puisque maintenant, voilà, c'est devenu une entreprise, c'est une méthodologie. Mais pour moi, l'essence, c'est très simple. C'est le Petit Prince. On en est resté là tout à l'heure, apprivoiser soi-même, apprivoiser la relation à l'autre. À l'autre, c'est comme maintenant nous deux dans ce studio. Relation aux autres, c'est avec tous les auditeurs. Et puis quand tout ça est bien apprivoisé, ça nous donne une autorité naturelle, simplement une autorité d'être, pas de carte de visite. Et je crois que c'est ça l'avenir, ce sont les compétences sociales. C'est quand même aberrant de voir qu'en entreprise, les séminaires les plus vendus de formation sont des séminaires de gestion de conflits. Moi, ça m'horripile de voir ça, plutôt que lancer les séminaires, de vraiment s'éduquer tous ensemble sur les compétences sociales.
On intervient quand il y a le feu, très
voilà.
Clairement.
Nourrissons ces compétences sociales, c'est la fameuse relation à l'autre et aux autres. Sans elle, une entreprise, un projet, une famille ne peut pas fonctionner. Et c'est le plus beau jeu de créer de la relation. Mais de rester seul, cloîtré, c'est aussi un défi qu'on peut choisir.
De nouveau, on n'est pas tous obligés d'être en lien.
Cette notion de choix, vous avez remarqué, tous les chapitres se finissent avec l'expression « à chacun de choisir ». Souvent on me dit « oui, mais comment faire le bon choix, prendre la bonne décision, choisir le bon travail ?» Pour moi, c'est la fausse question. L'important, c'est d'avoir, quel que soit le choix, la décision, le travail, c'est d'avoir la bonne attitude. Et quand je dis la bonne attitude, c'est d'être aligné. C'est comme en musique. Je peux être un virtuose au piano, mais j'ai l'humilité avant le concert d'accorder l'instrument. Et après, seulement je joue. Et j'accorde l'instrument avec les autres en même temps. Puis après, on joue. On voit dans les affaires, c'est très rare qu'avant des séances de travail, les gens s'accordent. Ils rentrent dans la séance, dans leurs soucis à eux, plus les autres soucis, on ne s'accorde pas, donc il peut sortir qu'une cacophonie. Donc l'important, c'est d'accorder mon instrument, et l'instrument en revient au corps. Un corps détendu, eh bien, ça veut dire que les émotions circulent. Donc alors, ça veut dire qu'elles sont agréables.
Je voulais qu'on en parle du corps, parce que justement, en tant qu'athlète, vous travaillez aussi sur ce corps, forcément, évidemment. Et vous donnez des choses, alors on n'aura pas le temps évidemment de tout dire, parce que le temps passe très très vite, mais vous dites par exemple une chose totalement bête, c'est avant un entretien ou quoi qu'il arrive, c'est ouvrir les bras, bouger, avoir une sorte d'attitude comme ça un peu simiesque, et puis s'agiter et... Et ça donnera des résultats.
Mais c'est vraiment le lien dont je vous parlais. Le corps détendu, les émotions circulent, ça veut dire qu'elles sont du côté agréable. Donc ça veut dire que je vais penser solution automatiquement. Puisque quand on se sent bien, on regarde les possibles. De l'autre côté, un corps tendu, c'est qu'il est bombardé d'un flux nerveux de stress dû à des émotions désagréables. Et pourquoi je vis des émotions désagréables? Parce que je vis dans ma tête un scénario, le chimpanzé fou, qui m'emmène dans les pires choses. Je suis dans la fameuse poubelle. Donc l'important, les émotions sont médianes. Émotion, ça vient d'émovorer, ça veut dire mettre en mouvement, sortir de étymologiquement. Donc ça veut dire que c'est très simple. Je peux me surprendre à être dans un état désagréable. Et c'est ce que j'explique à mes soi-disant leaders ou grands athlètes. Mais on peut être là. L'important, c'est quand je suis là, il ne faut surtout pas que j'exprime ensuite, communiquer, parce que je vais emmener les gens dans cette énergie-là. Donc, je dois changer mon émotionnel et le seul moyen que je peux faire ça rapidement, c'est par le corps. Et comme vous l'avez dit, avec des grands mouvements, surtout des mouvements de balancier, j'ai rien réinventé. Toutes les mamans du monde depuis des générations bercent un enfant quand il fait un caprice. Pourquoi? Parce que ça fait le mouvement du 8, le fameux signe qu'on va retrouver dans tout
l'infini,
et puis dans toutes les, on va dire, si on prend sur le corps sur un plan énergétique, au niveau des atomes, on va avoir ça. Donc une maman qui berce un enfant, elle lui ralentit par conséquence les ondes cérébrales. Donc on va pouvoir méditer pour ça, mais un mouvement de balancier va l'amener. Donc dans les arts martiaux, on apprend beaucoup ce genre de choses. Mm-hmm. Donc s'agiter positivement ou agréablement avec des grands gestes quand on est frustré ou prostré, eh bien on va changer notre état émotionnel très vite. En 20 à 30 secondes, on va le changer. Plus on fait des mouvements plus ils vont être grands, plus on va libérer. Et on repart du corps, ça fait que les émotions vont être de nouveau dans l'enthousiasme et tout à coup, notre mental va être vide. Alors de nouveau, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est simplement, on le voit, on ne se sent pas bien. Beaucoup disent, je vais courir ou je vais faire le ménage. On se sent mieux après le ménage. Ok, alors symboliquement, on a nettoyé des choses. Mais on va bouger. Le problème, je pense, dans notre culture actuelle, c'est qu'on devient trop des femmes et des hommes troncs. Le corps, il a la sagesse, il a les réponses. Et il y a aussi une très bonne chose à pratiquer, c'est ce que j'appelle l'expiration. Tous les étudiants qui nous écoutent, ils vont avoir des examens, ils passent des heures à étudier. On ne leur apprend pas que le jour de l'examen, ils peuvent avoir le stress. Simplement, il faut expirer. Personnellement, avant les spectacles, avec mon musicien, on passe les 10 minutes avant que ça s'ouvre, puis que vous retrouvez devant 5000 personnes, bien on expire. C'est simplement ça. Pourquoi ? Parce que quand on expire, on vit le moment présent. Et surtout, on vide la baignoire du stress. Et je dis bien expirer, puisque quand on a vidé au fond notre corps, l'inspiration va se faire naturellement.
Ça laisse de la place.
Et voilà, on laisse de nouveau de la place. Et c'est ce qui est très important. On dit de respirer, mais respirer, de nouveau, c'est un concept intellectuel. Expirer est une action dans le moment présent. Les choses sont très simples. Tout ce qu'on va retrouver dans ce livre, tout le monde le sait. Je crois qu'après, la grande différence, c'est qui sait et qui pratique. Puisqu'à force de pratiquer, eh bien, on se sent mieux et on ne va plus après chercher à réaliser un but pour se sentir bien puisqu'on est déjà bien. Donc on est vraiment dans cette équation.
Ça calme, hein. Ça doit calmer.
Bonheur égale performance et non plus performance égale bonheur. Parce que ce soit un étudiant qui veut réussir ses examens, cette jeune fille qui veut épouser ce jeune homme, cet homme d'affaires ou cette femme d'affaires qui veut augmenter leurs chiffres ou cette dame qui veut retrouver la santé, leur objectif est toujours le même. C'est quand j'aurai ça, je me sentirai bien. Donc le chemin proposé, il est dans l'autre sens. C'est cultivons dès maintenant, comme vous l'avez dit, dès aujourd'hui, ce sentiment
si de bien-être
en le vivant, en l'habitant. Et derrière, on va aborder justement la relation à nos défis d'une autre manière. C'est ce que me disait le fameux Tony. Il me disait, Thierry, ta différence entre toi et moi, c'est que toi, tu te sens bien que quand tes objectifs sont atteints, quand tes attentes sont atteintes. Et dis-moi, je cultive se sentir bien tout le temps. Je suis détaché de l'atteinte de l'objectif. Et c'est là le paradoxe de la vie. Plus je suis détaché, plus je les ai réalisés et sans effort.
Oui, rien n'arrive par hasard. Toutes ces rencontres, je suis désolée, mais c'est voilà, on aura encore des heures. Merci en tout cas d'être passé par nos studios et puis on vous
merci
souhaite
vous.
Évidemment une très belle suite faite de rencontres comme ça dans votre Provence. Vous partagez votre vie entre la Provence et la Suisse. Quelle chance vous avez.
Oui.
Mais la chance, on se la donne. On est bien d'accord.
Exactement, si.
Merci à vous et on se quitte en musique.
Lately I've been picking out the fossil in my throat. It's hard to stare into the ocean and to try to stay afloat. Now don't upset yourself due to the change in my mood. I'm hard to please. Sometimes I'm hard to please. Sometimes I'm on a staircase to the bottom of my soul. Although my feet are still connected, they're out of my control. And please refrain yourself from worrying on my behalf. I'm hard to understand. Sometimes to understand, sometimes, honey, come with me, it's just you and me, better believe it, as simple as can be, I will need a tear that sets you free, now we'll shuffling underneath my pillow for the breadcrumbs of my mind. It's hard to look there for a future when I left it all behind. And please don't condescend and say I heard this one before. I'm hard to please. Sometimes I'm hard to please. Sometimes. And while you're offering a handshake to a goddamn amputee, I feel my phantom heart is scratching in a train wreck memory. And please don't try to cure me with one rectifying glance. I'm hard to understand.
Extrait du nouvel album d'Assaf Avidan sur la première pour terminer Ego System. C'était un choix d'Yves Hélène à la programmation musicale. Il y avait Anne Marchand à l'enregistrement. Rien n'arrive par hasard, les autres livres de Thierry Schneider sur son site et nous avons tout mis en ligne sur la page d'Ego System gérée par Dany Sulam. La semaine prochaine, nous rencontrerons Corinne Sombrin. Elle est chamane et nous parlerons des surhuis et de son rapport avec ces Indiens d'Amazonie résistant à la déforestation. Un monde va s'ouvrir à nous. À la semaine prochaine, promis sur la première. Bonne suite, il est 14h.